Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 63e épisode d'Autoréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu. Salut Kef.
Salut Fasquille.
Ça va bien?
Bah écoute, ça va pas mal, tout va bien.
On a du stuff à vous partager cette semaine.
Comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines où on commence le truc en se disant putain on a rien dans la conduite, en
c'est
fait,
ça.
On a beaucoup de trucs.
Et après on dépasse de 20 minutes allègrement.
C'est
on
ça.
Va essayer de revenir à un format plus proche de la demi-heure. Cette fois-ci on verra si on tient nos promesses et on va commencer tout de suite avec le gaming et on parle d'un Battle Royale mais qui n'est pas PUBG, mais qui est celui de Call of Duty Black Ops 4.
Bah oui, alors en fait, Call of Duty Black Ops 4, c'est un Call of Duty Black Ops pur jus avec du multi partout, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement la nouveauté de cette année, c'est-à-dire le mode Battle Royale Blackout, qui est un mode dans l'air du temps, pour faire simple. Je vous ai linké la review de Wired sur le billet qui accompagne le podcast. C'est assez rigolo parce qu'ils ont titré le remake d'un Call of à l'époque de Fortnite, hein, et c'est exactement ça, effectivement. Les mecs n'ont pas le choix, hein, il faut vivre avec l'air du temps. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est super bon. En plus, celui-là, on n'est pas du tout acheté par Active, ce qui nous ignore royalement. Hein, donc, on n'a aucune nouvelle d'eux. On leur envoie des emails et tout ça. Ça me rappelle une époque où toi et Marvel, c'était rigolo. là, c'est pareil. Donc, non, c'est acheté avec nos petits sous à nous. Et du coup, là, on a bien saigné le truc. Hein, tu sais, faut rentabiliser dans ces cas-là.
C'est, 60 balles quand même. Hein.
Oui, alors 60 balles, sauf qu'il y avait des clés sur des magasins, comment dirais-je, gris. Tu sais, ce market.
Bravo.
Mais oui, parce que il y a un moment, tu sais, c'est dur la vie. Et il faut économiser de l'argent. Et donc, ça se trouvait à 34 euros. Et ça fait une sacrée différence quand même, mine de rien. Et ça fonctionnait. C'est ça qui est beau. Parce qu'on est quand même plusieurs sur Geekzone à avoir craqué pour cette option peu chère. Mais on ne pleurera pas sur Activision. Donc du coup, c'était et ça me fonctionne tout à fait. Donc pour revenir à Blackout, le gameplay est excessivement nerveux. Quand on arrive de PUBG, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça va très très vite. Le personnage peut courir, faire des glissades. Vous pouvez reprendre de l'élan des grands bâtiments et sauter en utilisant votre wingsuit qui du coup d'ailleurs est buggé en ce moment. Donc vous pouvez en profiter puisque vous pouvez le déployer en courant le long d'une colline, un peu comme la petite maison dans la prairie, mais version un peu hardcore, et vous pouvez comme ça éviter les balles des mecs qui essayent de vous shooter, puisque vous pouvez descendre la colline beaucoup plus vite avec cette astuce qui à mon avis sera patchée, peut-être même déjà au moment où vous entendrez ce podcast, car les petits gars de chez Acti, en l'occurrence les mecs de chez Raven et Triarch qui sont derrière ce Call of, ont fait un boulot de ouf. C'est Raven qui fait le mode Blackout, hein, c'est pour ça que je les cite. Vous avez, en fait, quand vous arrivez de PUBG, vous avez une grosse période d'adaptation puisqu'il faut se réapprendre déjà les mécaniques de jeu. Ça va beaucoup plus vite. Toutes les armes, on sait pas, on comprend pas au départ. Il y a plein d'armes et elles ont un peu là toute la même gueule et il faut quelques heures de jeu pour arriver déjà à les reconnaître, les différencier rapidement et savoir ce qui vous plaît, ce qui est vraiment un petit peu merdique, ce qui peut potentiellement être merdique, mais vous aimez bien, vous arrivez bien à l'exploiter. Pour l'instant, je vous cache pas qu'il y a des petits problèmes d'équilibrage encore. En l'occurrence, le shotgun le plus lent est beaucoup trop puissant à courte distance, ce qui nous met une méta, un gameplay que tous les pro-gamers vont un petit peu exploiter quelque part, ou en tout cas certains, qui en fait nous rappelle un peu Fortnite, c'est-à-dire que les mecs gardent toujours ce shotgun avec eux parfois, en tout cas certains joueurs. Il y a des snipes aussi qui ont clairement la préférence de certains, qui sont vraiment très efficaces, et on peut shooter les mecs très rapidement, c'est un Call of, hein, donc c'est la physique des balles, c'est pas PUBG, le code réseau est pas mal, donc du coup on peut vraiment sniper des mecs d'assez loin et sans pitié avec ce genre de d'outils, et ça fonctionne donc très bien. Moi je suis extrêmement satisfait. Ceux qui ont suivi mes petits streams d'amateurs sur le net savent que j'ai dû envoyer, je crois que j'ai fait un stream de 7 heures à un moment donné.
Bravo.
Le mec a craqué, hein, tout va bien avec des gars de Geekzone, hein, on était au taquet. On a fait des moves, on est nul en plus, hein, donc on a joué 7 heures en étant nul, ce qui veut dire que le jeu est quand même très bon. Parce qu'on y retourne, on se fait défoncer, c'est pas grave, vas-y, on y retourne. Et à côté de ça, donc, pour ce petit Black Ops 4, on a aussi le mode zombie. que j'ai pas vraiment saigné. J'ai dû faire 3 games. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une sorte de système de wave. Vous avez des vagues de zombies avec un scénario, des personnages qui se parlent entre eux. C'est du multi-coopératif. C'est très très marrant parce que les personnages, en fonction des persos que vous avez, les dialogues changent. Donc les mecs se sont vraiment fait chier. Et vous êtes sur le Titanic et il faut avancer. Il y a toute une histoire qui se déroule et vous êtes coursé par les zombies. Vous allez débloquer des armes, vous allez débloquer des passages au fur et à mesure, etc. C'est très bien foutu. Ça n'a rien de nouveau. Ça existe depuis Call of 2, je crois. Je crois que c'était pas... Black Ops, en tout cas. Donc, je ne sais plus. Parce que je suis pas un énorme fan, parce que c'est ça qui est drôle. À la base, les Call of, tu sais, c'est genre le truc qu'on fait genre... c'est pas pour nous. Mais en fait, c'est vachement bien, celui-là, avec le mode Blackout. Et puis, pour finir quand même le multi, il y a 8 modes de jeu. Et dans ces 8 modes de jeu qui sont appelés les modes core, il y en a 5 qui sont déclinés en mode hardcore. Alors, dans les modes de jeu, on a les classiques, hein, Control, Team Deathmatch, Free for All, etc. Et on a quelques plus, des trucs un peu plus rigolos, genre Haste, où il faut récupérer un sac de fric et l'emmener jusqu'à un hélicoptère, évidemment, donc les autres vont vous en empêcher, etc. Et dans le mode, les versions hardcore, vous n'avez pas d'interface et vous mourrez beaucoup plus vite, ou si vous êtes de l'autre côté du gun, vous tuez beaucoup plus vite. ça change complètement la dynamique du jeu. Puisque là, vous prenez une balle et vous êtes éclaté, quoi. Donc, c'est plus lent ou plus rapide, ça dépend des styles. Si vous êtes extrêmement bon et que vous avez des temps de réaction très courts, bah, vous pouvez courir partout et shooter plein de mecs à la suite. Et sinon, bah, ça commence à payer de camper. Alors que le gameplay normal ne récompense pas du tout la camp. Hein. C'est Call of, vous connaissez, on n'est pas en train de faire caca derrière des caisses. Hein. Ça cavale dans tous les sens et ça tire dans tous les sens, ça vise très bien. Voilà, graphiquement, c'est très bien réalisé. Le jeu tourne ultra bien. Moi, j'ai un bug de l'espace que personne n'a apparemment sur le net, puisque je fais des recherches Google dans tous les sens et personne ne l'a. C'est qu'il y a des vidéos qui sont censées t'expliquer le scénario, puisqu'il n'y a pas de mode story dans ce
Call of. Oui, tout à fait. Ouais.
Mais il y a un scénar. Bon, qui est un peu pourri, hein, mais il y a des vidéos qui sont faites et qui vous expliquent ce scénar, qui présentent les différentes classes du jeu. Mmh. Et moi, j'ai pas les voix. Tout fonctionne, sauf que j'ai pas les voix. Les persos se mettent à parler, je vois les sous-titres et j'ai pas les voix et j'ai tout essayé, ça ne veut pas passer. Donc voilà, j'ai des problèmes de son un peu chelou.
J'ai peut-être une idée, mais on en reparlera après l'enregistrement du podcast.
D'accord.
Du coup.
Parce que écoute, ça m'intéresse.
J'ai eu le même coup avec un autre jeu et j'ai fini par trouver ce que c'était, mais voilà, on y reviendra hors antenne, voilà, comme on dit.
Enfin, en tout cas, vous pouvez y aller. Si vous trouvez des clés à moins de 40 balles, faites-vous plaisir.
On reste dans le gaming avec des petites news du côté de Rocket League. On en parlait dans, je crois que c'est l'épisode 60 de Torréfaction, du début du crossplay sur PlayStation 4. On sait que Sony freine des deux pieds par rapport à tout ce qui est crossplay, donc ce qui permet de jouer entre machines différentes, en fait. Ouais. Et pour le moment, il y a du multiplateforme sur Rocket League, mais qui isole un petit peu les joueurs PS4, puisqu'ils peuvent jouer que contre les joueurs PC. Ils peuvent pas jouer encore contre les joueurs Switch, ni contre les joueurs Xbox One. Et a priori, ça bloque un peu du côté, du coup, des développeurs de Rocket League, qui voudraient bien implémenter leur fameux Rocket ID, qui est donc un identifiant unique qui permettrait donc non seulement de jouer avec tout le monde sur n'importe quelle machine, mais aussi de simplifier toute la procédure qui permet donc de créer des events et donc de se grouper entre différents joueurs, peu importe les machines qu'ils utilisent. Ça devait normalement arriver fin 2018 et c'est finalement repoussé à courant 2019. On imagine que la timidité de Sony n'y est sans doute pas étrangère, mais même si on a constaté, comme on en avait déjà parlé dans Torréfaction, une certaine volonté d'ouverture de ce côté-là. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler, vous qui êtes joueur de Rocket League, que c'est pas encore pour tout de suite les matchs multiplateformes sans trop se prendre la tête. Il va encore falloir ruser un petit peu pendant quelques mois. On vous linkera un papier de Gamekult qui résume très rapidement l'histoire et qui donc confirme aussi que c'est pas avant 2019. On passe du côté des apps avec une app plutôt sympa.
Plutôt très sympa.
Ouais, plutôt très sympa même, qui s'appelle Be My Eyes.
Soyez mes yeux en français, dont je parle sur Geekzone cette semaine, qui est une appli en fait super vieille et que j'avais pas du tout vu passer. Et comme c'est un truc ultra utile, je me suis dit on s'en fout, on va en parler en 2018, allons-y.
Jamais trop tard, moi je dis.
Exactement. Donc Be My Eyes, c'est quoi? C'est une application pour aider les aveugles, les non-voyants, malvoyants, toutes les personnes qui ont des troubles de la vision graves et qui les handicapent au jour le jour, les aider en fait tout bêtement grâce à nos smartphones qu'on a dans notre petite poche tout le temps avec nous, comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple. La personne malvoyante qui a besoin d'un coup de main, j'en sais rien moi, pour lire une facture d'électricité qui vient d'arriver, ou son courrier, trier son courrier, savoir ce qui vient d'arriver justement, peut, au lieu d'attendre qu'un pote passe à la maison et bah saouler son pote en plus, tu vois, et bah, avoir des relations qui sont un peu interdépendantes, un peu trop chiantes finalement au jour le jour pour les gens qui ont ce genre de handicap, bah du coup là ils peuvent dégainer leur téléphone. Il y a cette application qu'on peut lancer très simplement via Siri ou OK Google, etc. Donc il n'y a pas besoin de voir les icônes pour les gens qui se posent la question. Il y a plein d'aides hein, sur les smartphones maintenant, pour les mâles et les non-voyants. Et du coup, là, il y a un énorme bouton sur l'appli qui leur permet d'appeler un volontaire. Les volontaires, c'est quoi? C'est des gens qui vont bien avec deux globes oculaires fonctionnels, n'est-ce pas? Et qui se sont inscrits sur le site comme volontaires pour aider les gens. Et du coup, la base de données va tourner, va mouliner, et en fonction de l'endroit où vous êtes, l'appli sait qui est disponible. L'appli ne vous appelle que entre 7h et 20h, 7h et 22h, je crois, je sais plus exactement la tranche horaire, mais enfin, en gros, ils vont pas essayer de vous activer au milieu de la nuit. Et vous appelez, vous retrouvez en vidéo call avec la personne en question. Alors pas le volontaire, mais uniquement le malvoyant, puisque du coup, lui va filmer ce qu'il a besoin de voir. Et vous allez lui décrire et vous allez l'aider avec le feed audio de votre téléphone pour lui dire « Ok, bah ça c'est le courrier, c'est ça, 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 etc. Sur cette photo, il y a tel truc, etc. » Et donc, il y a les gens, d'un coup, peuvent retrouver une vie quotidienne plus simple pour des trucs hyper cons auxquels on pense absolument pas quand on a la chance de voir. C'est genre « J'ai deux écharpes, je veux utiliser la rouge aujourd'hui. Laquelle c'est ?» et du coup c'est des trucs qui sont faciles à faire alors que c'était absolument impossible si on n'avait pas quelqu'un sous la main entre guillemets. Il faut savoir, donc j'explique un peu la genèse de l'application dans le papier, mais il faut savoir que la personne qui l'a créée, donc enfin qui a eu l'idée en tout cas, est elle-même atteinte évidemment l'idée lui est venue parce que trouble de la vision chez cette personne qui s'appelle Hans-Jørgen Wilberg, qui est danois, et qui a eu la chance de rencontrer sur un forum de start-upers un jeune entrepreneur qui s'est dit « mais c'est une idée géniale, faut le faire ». Ils ont trouvé un fonds d'investissement qui les a aidés et ils ont a priori trouvé comment faire perdurer l'application. Bref, ça marche très très bien. Le truc qui est impressionnant, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que en gros, il y a plus de volontaires que de personnes qui ont besoin d'application.
Ouais, largement même d'ailleurs. Je regardais les derniers chiffres, là on est à 1 600 000 bénévoles pour 96 000 non-voyants.
C'est ça.
Tu risques pas de te faire ennuyer tout de suite, on va dire.
Exactement. Donc là, déjà, les mecs de l'appli le disent, mais le disaient déjà il y a en 2015. C'est-à-dire, quand l'appli est sortie, il y avait déjà un ratio de fou. Hein. Je crois que c'était un ratio de 1 pour 10. C'était, il y a eu les premières 24 heures, il y avait genre plus de 10 000 mecs en volontaire inscrits pour à peine 1000 non-voyants. Donc, l'appli va pas vous spammer, c'est clair. Il y a des gens qui ont installé l'appli depuis plusieurs semaines, qui n'ont jamais eu un call. Mais l'idée, en vous parlant de ça, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des gens qui auraient besoin de l'application autour de vous, dans vos connaissances, et qui ne la connaîtraient pas. Je pense qu'évidemment, maintenant, 3 ans après, les gens qui sont dans les groupes, tout le monde appartient à des associations, il y a des toubibs, etc., les gens sont relativement au courant, normalement. Du coup, je préfère en parler, et si vous n'étiez pas du tout au courant, ce truc est vraiment très utile, c'est très bien foutu, c'est sécurisé, tous les calls sont enregistrés, les mecs vérifient justement qu'il n'y ait pas de problème, et il n'y en a pas parce que les gens, bah, en fait, sont juste contents. C'est hyper gratifiant pour le volontaire d'aider, et pour la personne de ne pas être aidé par un ami, de ne pas faire chier quelqu'un de son entourage, et bah, c'est un poids en moins, et du coup, il n'y a jamais eu de problème depuis 2015, et j'espère que ça va continuer. Et, du coup, voilà, maintenant vous connaissez, vous pouvez faire tourner l'info, faites tourner le papier de Geekzone qui a toutes les infos à l'intérieur, plus une vidéo de présentation pour voir à quoi ça ressemble, et c'est vraiment le genre d'appli, bah, vous pouvez l'installer, la laisser dormir sur votre téléphone, et puis si un jour on a besoin de vous, vous serez là.
Be My Eyes, donc, on reste dans le domaine des malvoyants, mais on passe du côté de la culture avec la saison 3 de Daredevil. T'as vu la transition un peu?
Waouh. Hey, tu ferais pas des podcasts?
Tout ça pour vous dire que la saison 3 donc de Daredevil sort aujourd'hui sur Netflix. Alors me demandez pas à quelle heure, je sais plus exactement, je sais qu'en général c'est minuit aux US, donc c'est probablement dans la matinée chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison 3? C'est un peu la saison, peut-être la dernière, hein, vu comment ça se passe pour le moment avec les séries Netflix. On sait que Iron Fist a été annulé après sa deuxième saison. Bon, après, on n'est pas du tout dans le même genre qualitatif, on va dire. le showrunner de cette saison est un certain Eric Olson, qui est un transfuge de la série Arrow. Donc, voilà, qui ne me rassure pas forcément. Sachant que Drew Goddard, donc, qui était l'instigateur du projet à la base et qui est un monsieur que j'aime beaucoup, lui est toujours présent, mais en tant que consultant. La saison 3 fait suite immédiatement aux événements qu'on a pu voir dans la mini-série Defenders. Avec un Matt Murdock qui est laissé plus ou moins pour mort et qu'on retrouve dans un hôpital. Wilson Fisk fait son grand retour puisqu'il va sortir de prison et attention devenir informateur du FBI. On imagine que ça va pas forcément se passer comme tout le monde le veut. Et on va aussi pouvoir découvrir donc une nouvelle incarnation du personnage de Bullseye. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le film Daredevil de 2003 avec Ben Affleck, il était incarné par un très cabotineur Colin Farrell.
Il était
vraiment très très pénible avec sa cible sur le front. On espère que ce sera traité de manière un petit peu moins débile, mais en tout cas ça a l'air d'être le cas dans les trailers qu'on a vus. Et puis dernière info, il faut savoir que la saison s'inspire en partie en tout cas d'un arc assez iconique des comics qui s'appelle Born Again, qui avait été signé par Frank Miller, et où grosso modo, pour résumer, on peut dire que Matt Murdock pète un gros câble, surtout à cause de Fisk qui devient un petit peu foufou, et il a du mal à assumer son rôle de justicier de la nuit, en tout cas avec toute la sobriété nécessaire. On n'a pas eu accès aux épisodes comme certains de nos confrères parce que c'est toujours Marvel et puis voilà. On espère que pour la prochaine série, si on a une, on pourra y avoir accès et pouvoir regarder les épisodes avant tout le monde. Les premiers retours sont plutôt bons, mais on sait que ça veut pas dire grand chose parce que généralement Netflix ne file que les 4 ou 5 premiers épisodes qui en général sont prometteurs et puis c'est généralement après que ça se gâte, surtout sur les saisons de 13 épisodes.
Non, sur Iron Fist, c'est pas du tout
prometteur.
C'était
parti, voilà. Iron Fist était parti dans le mur tout de suite, mais on sait que Jessica Jones a souffert du syndrome des 13 épisodes avec un ventre mou qu'on n'avait pas forcément vu en mettant que les 4 premiers. Bref, tout ça pour dire que vous pouvez voir les 13 épisodes dès aujourd'hui sur Netflix. Daredevil saison 3 donc. Et c'est tout pour la culture. On va passer du côté de la tech avec un gros chapitre tech
cette semaine. C'est impressionnant quand on le regarde sur la conduite, mais ça va aller très vite, hein, rassurez-vous. On va parler déjà de Discord, notre petit copain Discord qui continue sa mutation et qui, comme on l'avait un peu prédit dans des épisodes précédents, n'est-ce pas, rappelez-vous, ils vont se transformer en shop. Ils l'ont annoncé il y a un moment, mais nous on avait anticipé le truc un petit peu avant parce qu'on est super malin, mais du coup ça y est, c'est ouvert en version bêta. Discord vend des jeux vidéo directement avec une partie shop qui a une présentation rien d'extraordinaire, on a déjà vu ça un peu partout, et avec, ça c'est la vraie surprise, des exclus. Il y a des indés qui prennent le risque d'être en exclus sur le shop Discord. Vu le marché actuel, je ne suis pas surpris, parce que c'est pas comme si Steam c'était facile de trouver du jeu indé, hein. Du coup l'offre elle est plutôt intéressante si on aime les nouveautés. Il y a quelques titres qui m'ont attiré l'œil, mais rien d'ultra novateur qui va vous envoyer directement à cliquer sur la touche acheter. En revanche, il y a un truc qui est ultra décevant, c'est leur fonction librairie.
Bibliothèque en fait.
Ouais, bibliothèque en français, excusez-moi. c'est library.
Library.
Library. C'est compliqué les accents à cette heure-là, je vous le jure. La problématique, c'est que c'est super moche, c'est ultra mal organisé, et le but du jeu, c'est de condenser tous les jeux que vous avez dans Steam, GOG, tous les autres launchers. En fait, ils veulent devenir le centre du monde de votre PC et côté jeux vidéo. Ce qui est une mission noble et qui, à mon avis, est tout à fait dans leur corde, vu comment ils sont en train d'éclater tout le monde en termes de gestion de la communication, etc. Tout le monde connaît l'outil alors que les mecs n'existaient pas il y a 2 ans. Enfin, c'est une trajectoire et un succès de fou, Discord. Le problème, c'est que là, vraiment, la librairie, c'est super moche. C'est une liste en longue. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune option d'affichage qui te permettrait d'avoir un truc, je sais pas moi, des petits blocs sympas, un truc un peu joli qui te donne envie de jouer à tes jeux. Non, là, pas du tout. Et en plus, comme c'est une présentation verticale avec une scroll bar et basta, moi, rien dans Steam, j'ai 162 jeux d'installés, je sais, il faut que je me soigne. Mais autant vous dire qu'on retrouve absolument rien. Il faut passer par des recherches, mais du coup, quand t'es devant ta liste de jeux et que tu te dis, je sais pas à quoi jouer, ça vous est tous arrivé, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Du coup, c'est hyper compliqué et je pense que du coup, il faut vraiment qu'ils travaillent ça. C'est en bêta, c'est la première version, ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a pas ultra impressionné. On verra ce que ça donne dans quelques semaines, quelques mois.
On refera le point du coup quand ça sortira de bêta. Ouais. SoundCloud se réveille.
Tu me l'as fait plusieurs fois celle-là, j'y crois pas maintenant.
Deux news en rapport avec la plateforme de streaming. La première, c'est que a priori, on va pouvoir bientôt, enfin on peut déjà, selon certaines conditions, monétiser sa musique sur SoundCloud. C'était quand même une des demandes qui revenait le plus régulièrement. Les conditions sont quand même encore assez contraignantes pour le moment. La première, c'est qu'il faut être indépendant, donc le morceau qu'on veut partager soit pas signé sur un label ou un label major. Il faut avoir un compte pro, donc un compte payant. Alors SoundCloud dit que on peut monétiser gratuitement sa musique, c'est pas tout à fait vrai. Il faut avoir un compte payant, un compte pro ou pro unlimited. Je crois que c'est les deux formules d'abonnement qu'il y a maintenant sur SoundCloud. par rapport aux autres offres de streaming, notamment Spotify, hein, on pense à eux, ils promettent ce qu'ils appellent ça meets or beats. Donc ils vont être à niveau de ces services de streaming, voire parfois un peu supérieurs, mais donne pas de chiffres, donc pour le moment on peut pas vraiment comparer. L'autre restriction pour le moment, c'est qu'il veut avoir totalisé au moins 5000 plays, 5000 lectures sur le mois écoulé pour pouvoir avoir accès donc à la fonctionnalité. À terme, il voudrait l'ouvrir à tout le monde, bien évidemment, mais pour le moment c'est pas encore possible, donc il faut quand même déjà avoir un certain niveau de visibilité pour pouvoir y accéder. Ça ne concerne encore pour le moment que du contenu 100% originel, donc on sait pas trop ce que ça va donner pour des morceaux qui utilisent du sampling, par exemple. On sait qu'ils ont des bots qui sont quand même très très agressifs quand il s'agit de débusquer du contenu copyrighté sur leur plateforme, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Il est bien évidemment pas question d'uploader vos remix pour le moment, ça c'est pas du tout prévu, et les mashups, on n'en parle même pas. Et il y a une autre annonce qui va un peu dans la même direction, qui annonce donc une intégration prochaine de certains outils de mix, notamment ceux de Native Instruments, Traktor, Serato, Mix Vibes, etc., pour pouvoir donc mixer directement du contenu issu de SoundCloud dans ces logiciels de mix DJ. Alors, moi je trouve ça assez anecdotique en fait, voire même débile, pour plein de raisons. La première, c'est que déjà il faut se restreindre à la qualité du streaming SoundCloud et à ce qui est offert sur la plateforme, c'est-à-dire que souvent les labels qui mettent leurs morceaux en intégralité sur la plateforme de streaming le font pas avec une qualité top, justement pour éviter que les gens s'amusent à copier le morceau et à le ripper en fait directement depuis la plateforme web et pas l'acheter derrière, quand c'est pas carrément des morceaux qui sont coupés ou avec des petits jingles au milieu pour vous dire si tu veux le morceau il faut que tu ailles l'acheter sur un vrai portail.
C'est pas du tout ça, j'adore.
Donc déjà il va falloir pouvoir faire le tri entre ces morceaux complets et incomplets, si je puis dire ça comme ça, et puis ça implique aussi une certaine fiabilité du streaming sur site. Si vous êtes en train de mixer dans une soirée et que vous voulez aller récupérer un morceau sur SoundCloud, si la connexion lâche, vous l'avez un peu dans le baba, donc c'est pas très très safe.
D'accord, que ça sert à rien en fait, alors.
En gros, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. C'est surtout, je pense, pour faire parler de la plateforme. On va dire que je suis encore méchant avec SoundCloud, mais autant la monétisation, oui, ça c'est une bonne chose. À partir du moment où ça sera ouvert à tous et bien fait, pourquoi pas. Mais en revanche, là, l'association avec les outils de mix DJ, je vois pas trop l'intérêt. Le communiqué de presse se termine en outre par une grosse hypocrisie, je trouve, de la part du boss de SoundCloud, qui dit on reconnaît que la communauté des DJ de la musique électronique a été très très importante pour SoundCloud, super. On va leur rappeler quand même que grâce à leur super bot de détection de contenu copyrighté et de manière générale leur politique à l'égard des ayants droit, c'est en gros ce qui a fait fuir tout le monde, tous ces gens là en fait, tous les DJ et les membres de la communauté de la musique électronique de SoundCloud vers des plateformes dédiées. Je pense notamment à Mixcloud, qui en plus elle a offert très vite un système intégré qui permettait d'identifier les morceaux que tu mettais dans tes mix. Et donc, plutôt que de te striker ton compte quand c'était le cas, de dire « Hey, j'ai reconnu que tu avais un morceau payant. Si tu veux, je peux linker directement vers une plateforme qui va rémunérer l'artiste et qui va permettre aux gens d'acheter le morceau. » Ce qui est quand même une réaction un petit peu plus maligne, on va dire, que de simplement verrouiller les comptes qui utilisent du contenu copyrighté. Donc voilà, la deuxième annonce est plus un effet d'esbrouf, j'ai l'impression, pour dire « Regardez, on a des grosses marques avec nous, donc tout va bien. » c'est pas pour tout de suite. En plus, ils annoncent ça, mais pas avant avant 2020. Donc reste à savoir si en 2020 ça sera toujours
Ah oui, tu viens de faire deux minutes sur un truc qui n'existe pas. Merci Fasquille.
Non non, alors le début ça existe déjà, hein. Tout ce qui est monétisation, c'est en cours comme je l'ai dit, il faut avoir totalisé 5000 plays, mais l'annonce de l'intégration dans les trucs DJ, voilà, moi je voulais juste pousser mon rant à moi, voilà.
D'accord,
Laisse-moi faire mon rant.
Et bah tu seras gentil, tu mettras ton logo au début, hein. Tu mettras ton petit jingle, faut pas déconner non plus.
On reste dans la tech avec des nouvelles de Chrome et une nouvelle version, la version 70.
Ouais, j'adore ces numéros de version qui ressemblent plus à rien. Et c'est, j'adore parce que c'est le genre de fonction où les mecs te font un communiqué de presse, se disent « Ah et voilà, ça y est, on l'a fait !» Et c'est de la merde.
Ah bah super.
Donc qu'est-ce que c'est Chrome 70, il y a plein de nouveautés, hein, évidemment, comme dans toutes les grosses versions majeures. Non, je déconne, il y a de moins en moins de trucs dans les versions majeures de nos navigateurs. Mais bon, bref, dans cette version 70, nous avons le mode Picture in Picture, donc l'image dans l'image, pour pouvoir mettre votre vidéo YouTube dans une petite fenêtre qui va surnager sur votre bureau et que vous pouvez déplacer un peu partout. Et pourquoi ça sert à rien ? Et je sais de quoi je parle, puisque c'est une fonction qui existe depuis un moment dans Safari, et je ne l'ai jamais utilisée. Enfin, si, je l'ai testée, mais en fait, ça sert à rien, parce qu'elle souffre à peu près des mêmes problèmes. Et là, dans la version Chrome, bah, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand vous déportez votre vidéo sur cette fenêtre Picture in Picture, en gros, vous n'avez pas les sous-titres. Les sous-titres restent sur la fenêtre de base. Génial. Super utile, les mecs. Et les contrôles aussi. Donc avance, retour, pause. Enfin, si t'as le bout, ils sont gentils. Ils t'ont mis un bouton pause au milieu, quoi. Donc, c'est sorti. La techno vidéo est là. Génial. Mais on va attendre qu'ils finissent le travail, puisque là, en fait, ça sert à rien ce qu'ils ont sorti, faut être honnête. Ça m'énerve parce que c'est le genre de feature. Les gens vont la voir, vont voir que ça marche pas et vont jamais la réutiliser. Donc, du coup, autant attendre avant de sortir ce truc-là pour avoir tout le, bah, je sais pas, déjà rien que les contrôles sur le truc vidéo. Enfin, ça me paraît la base, hein. En plus, c'est assez marrant puisque, pour trouver la fonction elle-même, bah, c'est le royaume de l'expérience utilisateur ultime. Si vous faites bouton droit, en fait, sur votre fenêtre vidéo sur YouTube au hasard, un petit produit, ah oui, Google aussi, comme Chrome, bah, il n'y a pas de menu, en fait, pour faire Picture in Picture. Il faut cliquer deux fois pour récupérer le menu puisque YouTube intercepte le premier clic droit pour afficher ces conneries. Et du coup, il faut recliquer, il faut faire un deuxième clic droit pour avoir la vidéo Picture in Picture.
Okay.
Autant vous dire que les gens qui n'écoutent pas de podcast et qui ne lisent pas la presse tech ne trouveront jamais cette feature.
Bah, surtout qu'en plus, il y a des extensions qui existent. Enfin, moi, j'en ai une pour Firefox qui permet de faire ça dans YouTube, justement. Dès que tu scrolles, en fait, en dehors de la zone où s'affiche la vidéo, elle pop automatiquement à l'endroit que tu veux dans ton browser, en haut à droite, en bas à droite.
Non, mais là, tu peux sortir du browser, c'est l'intérêt.
Là, tu peux sortir du browser, effectivement.
Ouais. C'est l'intérêt, tout l'intérêt du Picture in Picture et la difficulté technique, hein, c'est de balancer ton flux vidéo en dehors de la fenêtre de base. C'est là qu'est le bordel, et c'est pour ça que c'était relativement facile, entre guillemets, pour Safari, pour Apple, puisqu'ils ont le contrôle de toute la couche graphique. Et c'est, du coup, c'est un peu plus compliqué pour les trucs Google. Et ce n'est pas terminé. Et le coût des sous-titres qui restent sur la plateforme, je l'ai déjà vu, parce que quand on utilisait AirPlay, par exemple, pour balancer sa vidéo YouTube sur n'importe quoi, sur sa télé, c'est pareil, les sous-titres n'étaient pas sur la téloche. Ils restaient sur le téléphone. Génial, ultra utile. Donc, bon, c'est des outils faits par des Américains. Les sous-titres, ils ne savent pas trop ce que c'est. On ne va pas leur en vouloir. Mais c'est un peu relou quand même pour le reste de la planète qui est... Ah oui, beaucoup plus nombreuses. Donc, j'aimerais bien que ça soit corrigé. Et on va rester dans Chrome 70, parce qu'ils ont mis plein de trucs, dont un deuxième, enfin plein de trucs, un deuxième qui, pareil, ne sera pas vraiment utilisé, c'est les Progressive Web Apps, les PWA. Est-ce que tu sais ce que c'est, Fasquille ?
Ça me dit quelque chose, mais alors là, tout de suite, tu me prends un peu au dépourvu, donc je vais dire non. Je vais jouer le candidat de service. Mais dis donc, Caf, c'est quoi les PWA ?
Mais dis-moi, mais à quoi ça sert, Jamie ? Alors, en gros, c'est très simple. C'est des applications web que tu peux utiliser comme des applications desktop normales, en fait, qui essayent de se faire passer pour des applications desktop normales. Je viens d'écrire un livre blanc pour un client sur le sujet, donc je suis chaud, là. Je suis dedans. Et du coup, Chrome 70, qu'est-ce qu'il propose ? C'est de pouvoir faire comme ce qu'on peut déjà faire sur mobile, en tout cas sur Android, très facilement. C'est installer les sites web qui te proposent des applications du genre directement sur ton desktop pour les faire passer sous Windows pour des applications standard. C'est une feature qui arrivera dans Chrome 72 sur Mac, mais qui est pour l'instant uniquement disponible sur Windows. Alors comment ça fonctionne ? Vous allez sur un site web qui est en fait une PWA, donc déjà les trois quarts des gens ne savent pas si le site web sur lequel ils sont est une PWA, où sont les PWA, etc. Je vous mettrai des liens sur le billet de ce podcast pour que vous ayez faire quelques tests. Moi je vous en conseille une parce que je suis abonné à Courrier International, que j'aime beaucoup, et ils ont sorti une application qui s'appelle réveilcourrierinternational.com qui vous met en gros un condensé de l'information tous les matins à 7h du mat. Donc c'est plutôt pas mal et ça fait le lien entre le magazine papier Hebdo et leur site web avec les mises à jour toutes les heures. Enfin les gens qui ont pas le temps, qui ont un vrai travail en fait, ont pas le temps de regarder ça toute la journée. Et voilà, ils checkent ça le matin dans le métro et c'est pas mal. Et au lieu d'avoir un site web, du coup c'est une PWA qu'on peut installer sur son téléphone ou directement maintenant faire une icône et ça va s'installer dans Windows et ça va lancer une fenêtre qui ressemble à une application Windows Store classique, j'ai envie de dire. Et c'est comme elle est plutôt bien réalisée, on va dire que ça donne une bonne image de ce qu'il est possible de faire avec une PWA. Maintenant, c'est du site web. Ce qui est novateur avec les PWA par rapport au truc web classique, au web app classique, c'est qu'on a tous les trucs importants, surtout sur mobile, c'est-à-dire les notifications, le fonctionnement hors ligne, des trucs qui sont impossibles à faire avec une web app classique. Et le progressive, en fait, il vient du fait que les fonctionnalités se dégradent en fonction de ce qui est disponible sur la plateforme sur laquelle tu l'ouvres. Il y a des, par exemple, Apple au hasard, grand copain de Google s'il en est, ouais, ils ont mis très longtemps à intégrer ce qu'il faut pour que les PWA fonctionnent vraiment bien et donc du coup on perd des fonctionnalités en fonction de ce qui est disponible sur la plateforme où on l'ouvre. C'est tout, c'est aussi con que ça. Pour info, Edge donc de Microsoft gère les PWA aussi, mais comme ils ont rien sur leur Windows Store, ils ont décidé de pas permettre d'ouvrir les PWA depuis Edge Microsoft parce que c'est des mecs super malins et donc du coup il faut quand on fait une PWA s'inscrire et la coller sur le Windows Store, ce que personne ne fera jamais. Bravo Microsoft, arrêtez votre Windows Store, personne veut y aller, je suis désolé, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc ça vous fait deux trucs à tester avec Chrome 70 qui sinon est toujours aussi moche, hein, j'aime pas du tout le nouveau design des onglets et je ne peux que conseiller aux gens d'essayer de donner une nouvelle chance à notre ami Firefox ou Vivaldi, voilà.
Je voulais finir cette section tech avec un petit mot sur un truc un peu surprenant, les navires autonomes.
Ouais, ça m'a fait marrer parce que j'étais pas du tout au courant. Et du coup, j'ai lu cette petite news chez nos amis de chez Numérama qui m'a bien fait marrer en me disant « Ah, il y a quand même des trucs rigolos qui se passent en tech encore aujourd'hui, mais qui ont pas, ils sont pas à horizon 2030, tu vois. » C'est nos petits gars, des mecs d'une petite PME pas connue qui s'appelle Rolls-Royce, associé avec une autre PME pas connue qui s'appelle Intel, qui ont décidé de faire effectivement des navires autonomes, enfin pas complètement autonomes, mais des navires contrôlés à distance. C'est-à-dire que eux, ils se sont dit « On va pas faire des voitures autonomes. » Les navires, il se passe trop de trucs, la mer, c'est compliqué quand même, hein, c'est un bon bordel. Mais en revanche, on peut enlever tous les humains du bord. Et évidemment, autant dire que les armateurs, ils ont fait genre « explique-moi, talk to me », ça m'intéresse, parce qu'évidemment, ça fait chier un armateur de mettre des cabines avec des humains dedans, il faut qu'ils puissent manger, dormir, faire leurs besoins, tout ça. Pff. Alors que si on pouvait mettre que des containers avec des trucs qui valent de l'argent à la place, miam miam, et bah évidemment, c'est ce qui est en train de se passer. En gros, ils sont en train d'inventer des postes de pilotage à distance. Tu pourras avoir ta cabine de pilotage de paquebot directement dans le port, en fait. On va dire que c'est le plus logique pour installer ça, mais ça peut être n'importe où techniquement. Et tu as des vidéos sur le billet de Numérama que je vous encourage à aller voir, qui sont complètement science-fictionnesques mais assez marrantes, pour aller voir des bateaux du futur pilotés par des mecs en costard-cravate qui sont tranquillement au chaud dans leur truc et qui savent pas la gueule que ça a une tempête, et du coup c'est censé fonctionner. Alors évidemment je vous passe tous les détails techniques, vous irez lire le billet, mais il y a des radars dans tous les sens pour voir faire la détection, des algorithmes de fou pour recréer en 3D l'univers, l'environnement autour du bateau, pardon, et donc du coup c'est super impressionnant, mais j'ai hâte d'avoir les premiers chocs, parce que déjà quand il y a des mecs à bord, on se retrouve avec des carambolages en pleine mer, on dirait un rond-point de carrefour de quartier, quoi. Donc déjà tu comprends pas comment c'est possible d'avoir des mecs qui font ça en pleine mer, donc je suis circonspect, parce que les mecs en plus annoncent ça pour dans 2 ans pour les premiers navires commerciaux autonomes, enfin donc il faut que j'arrête de dire autonome, hein. C'est vraiment contrôlé à distance, et pour un déploiement lourd sur les flottes commerciales à partir de 2025. Donc c'est après-demain, c'est donc
pas longtemps, ouais.
Ouais, mais parce que ils ont pas les mêmes problématiques que les bagnoles qui doivent être tout automatiques, eux ils sont vraiment sur du joystick, etc. Donc ça implique des connexions satellites hyper solides, ça implique que les bateaux perdent pas les connexions en pleine tempête, enfin je ok, moi j'attends de voir les mecs, hein. Faites-moi rêver, mais en tout cas c'est le futur, voilà, on n'a pas les voitures volantes, mais genre de truc, on commence à rentrer dans les trucs qui m'intéressent, on va dire.
Allez, on passe au rant avec une victime que je ne suis pas vraiment surpris de retrouver dans cette rubrique.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça, c'est de la merde.
Ah, magnifique. SFR continue de nous faire rêver. Alors, fantastique enquête des jours.fr qui remet sur la sellette SFR, mais d'une manière mais délicieuse, parce que là, on parlait tout à l'heure du futur, tu vois, qui nous fait rêver juste avant avec des bateaux qui savent reconnaître leur environnement et tout. Non, non, SFR, le futur pour eux, c'est gagner plus de fric en étant des gros fils de...
Aïe, caramba!
Excusez-moi, je sais pas si ça se dit pas normalement dans les podcasts, mais le truc est tellement énorme que si tout ça s'avère vrai, et a priori, les mecs ont des preuves, côté jour.fr, je suis, mais halluciné. C'est-à-dire que là, on est quand même dans de l'escroquerie pure et simple. Alors, de quoi il est question? Il est question, en fait, de virer des employés qui t'aident à résilier ton contrat. Toi, client, qui veut partir de SFR, le mec te montre quel est le numéro de téléphone et qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, les gars se font virer. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il les espionne et tout. Non, c'est pire que ça. Ils envoient des agents, a priori, dans les boutiques, qui se font passer pour des clients random et qui veulent résilier leur contrat. Et si l'employé de la boutique les aide, en gros, bah, ils sont dénoncés tout bêtement. Et ils se font convoquer pour un petit entretien, genre, salut, tu vas être licencié, parce que quand même, faut pas déconner, nous, les clients, faut les garder, faut pas les aider à partir.
Elle est belle, la France de Macron.
Alors là, tu vois, je veux dire, ça existait déjà avant, c'est gratuit, oui. Le pauvre, il a largement d'autres trucs à, tu vois, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même incroyable. SFR, ouais, qui était déjà une boîte que je déconseillais depuis des années, parce que, en l'occurrence, c'est pas Macron le problème, c'est un train de rail, mais là, on est quand même sur une culture d'entreprise, mais toxique au dernier degré. C'est un truc de fou. Les mecs, on leur dit dans une directive interne, pareil, qui a été récupérée par les jours, qu'il ne faut pas donner le numéro de portage aux clients quand ils les demandent. En gros, faut tout faire pour vous pourrir la vie, pour pas que vous puissiez partir. Tellement le service est dégueulasse et les prix nuls et que la concurrence fait un très bon boulot pour le coup. Bah,
ouais, puis ça s'est pas arrangé depuis le rachat par Numericable en plus.
Ah non, de toute façon, tout est parti en vrille dans cette fusion. C'est un bordel sans nom. Donc du coup, je suis atterré de voir que les mecs, au lieu de progresser, de se dire qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on pourrait pas améliorer notre service, être moins con. Non, on va juste être pire, humainement en tout cas, et en plus avec nos propres employés. Donc je suis, mais quand je vois ça, je me dis bravo, c'est super le futur, j'avais pas signé pour ça, quoi.
Et on vous linkera donc le papier des jours qui relate toute cette enquête. Les jours, on signale au passage, qui fait du très très bon boulot de journalisme d'investigation à plusieurs reprises, souvent sur des sujets qui nous concernent pas directement, qui traitent plutôt de la politique et ce genre de choses là. Mais pour une fois qu'on a l'occasion de leur faire un big up, comme on dit, on va pas se priver.
Et là, je précise pour les gens qui n'étaient pas au courant que le papier en question est linké sur un paywall. Il faut payer pour pouvoir lire l'enquête complète parce qu'il y a un vrai travail derrière, incroyablement.
Et c'est la fin de ce 63e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve lundi prochain dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis, nous, on va partir en week-end. Moi, je vais aller finir mon dossier sur Ant-Man and the Wasp qu'on me réclame depuis 300 000 ans.
Celui que tu avais mis au 15 sur le planning.
Oui, c'est ça. qui est en cours, là. Je confirme, j'espère que je vais pouvoir le sortir demain.
Allez.
Sinon, je sens que ça va encore être le running gag de la semaine prochaine. et puis, nous, on se retrouve donc vendredi prochain. Je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Il y a un nouvel épisode de Clairvoyant. Si vous êtes fan Marvel, cette semaine, il est sorti mercredi.
Avec un fabuleux titre qui vous mettra une chanson horrible dans la tête. Trop merci les mecs.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir sur le site. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, mon petit caf.
Exactement, bon week-end à tous.
Bon week-end, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.